Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. On va donc terminer notre série sur... terminer, pas tout à fait quand même, c'est l'avant-dernière prédication sur les églises de l'Apocalypse, donc sur les sept églises de l'Apocalypse. Et on arrive à la dernière des sept églises. Oui, Brigitte me rappelle, vous avez les salutations de notre église de Cahors. Donc voilà, on est toujours très content de partager aussi les nouvelles. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes déjà retrouvé mis à la porte de chez vous? Et si oui, peut-être qu'il y en a certains, peut-être pas. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Eh bien, quelqu'un a été mis à la porte de chez lui. Et c'est pas moins que le Seigneur qui a été mis à la porte par cette dernière de cette église qui est l'église de Laodicée. Et nous allons étudier donc cette dernière lettre donc à la dernière de cette église, celle de Laodicée dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Et je vais prier. Avant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que, Seigneur, tu n'as pas fini de nous parler. Tu t'occupes tellement de nous, Seigneur. Merci. Nous te prions de nous ouvrir le cœur et l'intelligence, Seigneur, à ta parole, pour être à ton écoute, pour nous laisser transformer par toi. Et Seigneur, merci de nous amener dans ce que tu veux nous amener pour chacune de notre vie et aussi pour cette église de Figeac, Seigneur, tu la fortifies, Seigneur. Et je m'appuie sur toi, Seigneur, pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte difficile. Mais en tout cas, de ce texte, eh bien, on peut en conclure que, on peut résumer ce texte avec cette vérité que l'Église reste la propriété du Seigneur, même celle qui ne veut pas de lui. Parce qu'il s'agit ici d'une Église qui ne veut pas du Seigneur, qui l'a mise dehors. Mais l'Église reste et restera toujours la propriété du Seigneur. C'est ce que je vous propose de voir. Premièrement, nous verrons les caractéristiques d'une église qui ne veut pas de lui. C'est une église qui est tiède. Comment la décrire? Deuxièmement, nous verrons, eh bien, comment une église tiède peut redevenir bouillante pour le Seigneur. Donc, premièrement, eh bien, d'abord, voyons déjà le contexte de cette église. Et alors, cette église-là, elle n'est pas accusée de débauche, d'immoralité. Elle n'est pas accusée d'apostasie, d'infidélité. Elle n'est pas non plus persécutée. Et on pourrait résumer son problème à un mot. Indifférence. Indifférence. Ou encore un autre mot, tiédeur. Ça veut dire la même chose. Dans le cas de cette lettre-là. Indifférence, tiédeur. Et pourtant, cette église, eh bien, on n'avait pas été indifférent envers elle. Parce qu'effectivement, elle a une histoire, cette église, et elle est dans vos Bibles, hein, notamment dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et à l'époque, et j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, les églises du premier siècle se soutenaient réciproquement. Et l'église de Laodicée, elle avait été soutenue, encouragée par l'église de Colosse. L'église de Laodicée, elle est citée par l'apôtre Paul dans ses lettres à l'épître, son épître à l'église de Colosse. Notamment en Colossiens chapitre 4 verset 16, nous pouvons lire « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » C'est très édifiant, comme on voit les rapports entre les églises mutuelles. Et dans notre région, eh bien, c'est bienfaisant d'avoir des rapports entre églises, inter-églises. Paul avait le même souci pour l'église de Laodicée que pour l'église de Colosse. Il aimait l'église, il priait pour elle, parce que c'est l'église du Seigneur. C'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Il aimait l'église, quel que soit son état. Et encore dans cette même lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul dit, en Colossiens 2, versets 1 et 2, voyez son cœur pour cette église. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé. » Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ. Alors cette église, elle a été encouragée dans son histoire. Elle a été encouragée par des lettres de l'apôtre Paul que Dieu lui a inspirées. Mais malgré tous ces soins reçus, eh bien cette lettre adressée à la dernière de cette église, eh bien elle est sans doute la plus difficile à avaler, et pour cause. Cette église de Laodicée donne la nausée. Elle donne la nausée au Seigneur. C'est dur. Et pourtant, c'est dit comme ça. Et voyons ce que ça veut dire. Cette église, donc, elle donne la nausée parce qu'elle est tiède. Elle est tiède. Et l'église de Laodicée comprenait parfaitement ce que ça voulait dire, la tiédeur. Parce que, eh bien, la ville de Laodicée était alimentée par un aqueduc qui était très long. Et donc, les eaux qui arrivaient à la ville, elles étaient tièdes à leur arrivée. Et notamment, vu le chemin parcouru par les eaux, eh bien, elles n'étaient pas propres. Elles n'étaient pas propres. Donc, eau tiède et eau sale qui donnaient envie de vomir aux habitants. Et les habitants de Laodicée comprenaient parfaitement ce que ça voulait dire d'avoir envie de vomir. Alors, eh bien, vous avez remarqué, on retrouve le même schéma dans cette lettre que pour les autres lettres. Le Seigneur éprouve la foi des fidèles par leurs œuvres. Quelles sont les œuvres de l'église de Laodicée ici? Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, verset 15. Eh bien ici, contrairement aux autres lettres, ou dans toutes les autres, il y a au moins un point positif. Une qualité pour chaque église, dans leurs œuvres. Eh bien ici, aucune œuvre ne reçoit son approbation. Aucune. Alors une question se pose. Est-ce que ça veut dire que cette église reste la propriété du Seigneur? Et une autre question qui en découle, est-ce que le Seigneur va rejeter cette église? Il faut se poser cette question. Et la réponse, elle est dans ce texte. On va décortiquer, justement. Cette église qui est sienne, n'oublions pas. Mais déjà, arrêtons-nous sur son problème de tiédeur. Voyons donc mon premier point. Quelles sont les caractéristiques d'une église tiède? Et j'aimerais vous poser une question. Sans répondre, hein, répondez intérieurement. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes repris par un frère ou une sœur de l'Église, ou par le pasteur, voire même par un non-croyant à l'autorité établie et reconnue? Je pense notamment à des gendarmes qui vous verbalisent parce que vous avez fait un excès de vitesse, des non-chrétiens. Merci Bernard pour ton témoignage ce matin. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que vous vous dites, mais de quel droit? Pour qui se prend-il? Est-ce que vous réagissez en vous disant, mais ça ne vient pas de Dieu? Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas se mettre en colère contre moi. Je suis son enfant. Il m'aime tel que je suis. Amen. Dieu t'aime. Il m'aime tel que nous sommes. Mais il ne veut pas nous laisser tel que nous sommes. Et vraiment, nous avons du mal à voir Dieu corriger son Église, n'est-ce pas? On a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Et la preuve en est que l'église de Laodicée, elle était aveugle. C'était trop dur pour elle de voir son problème. Trop dur pour elle de voir son état. Et j'ai même lu dans un commentaire, et un commentateur réputé, hein, je ne vais pas le citer, mais il a écrit vraiment des bonnes choses, de qualité. Mais il a dit que les versets 18 à 20 où il est question que le Seigneur frappe à la porte du cœur, il a dit que ça s'adressait à des non-croyants. Mais ici, ça s'adresse à l'Église, et pas à des non-croyants. Il avait aussi du mal à voir ça. Ça s'adresse bien à l'Église. Et cette lettre est bien comme les autres. Il faut la voir pour notre bien, pour notre édification. Elle est là pour nous ouvrir les yeux. Parce que notre problème, justement, est que parfois, eh bien, on ne se voit pas toujours comme on est. Et moi, c'est mon cas, hein. Nous sommes parfois aveugles sur notre état, parce qu'on ne veut pas le voir. Et quand on est marié, parfois, eh bien, notre conjoint nous renvoie une image de nous, hein. Et comme on lui renvoie une image aussi d'elle. On a beaucoup à apprendre du mariage, hein. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause de son aveuglement? Qu'est-ce qui peut être la cause de l'aveuglement de cette église? Eh bien là, c'est très clair. C'était une église qui était tout à fait aisée. C'était les richesses matérielles. Alors, dans son contexte, la ville de Laodicée, c'était un grand centre commercial et aussi un centre bancaire. Il y avait beaucoup de trafic commercial, beaucoup d'échanges. Elle était à un croisement de trois grandes routes. Donc, il y avait beaucoup de richesses dans cette église. Et verset 17, le Seigneur dit... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc c'est une église qui se savait riche, qui était riche, matériellement, hein, et pas seulement. Alors les richesses matérielles, oui, elles peuvent être un signe de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu, et on peut dire, je peux dire dans ma vie, j'ai connu des périodes très creuses et des périodes d'abondance, et merci Seigneur dans les deux cas. Les richesses peuvent être un signe de la bénédiction de Dieu, mais peuvent devenir un piège si on s'appuie sur elles au lieu de s'appuyer sur Dieu. Si notre sécurité, on base notre sécurité sur nos richesses, notre sécurité, notre confort. Parce que la séduction des richesses, elle aveugle et elle étouffe la parole de Dieu. C'est ce qui est dit en Marc 4, verset 19. L'argent fait convoiter. On veut remplir son cœur en possédant toujours plus. Dans une société d'ailleurs qui nous pousse bien à consommer, hein, toujours plus, qui nous fait croire qu'on n'est pas satisfait avec ce qu'on a. Et puis on cherche notre joie ailleurs que dans le Seigneur, on cherche notre joie dans les biens matériels. Et puis on se croit heureux, mais on ne sait pas qu'on est malheureux. Les gens se croient heureux parce qu'ils ont beaucoup de biens, ils ont peut-être de quoi assurer leurs vieux jours, mais ils ne savent pas qu'ils sont malheureux, ils n'ont pas le vrai bonheur. Et de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? Les plus riches deviennent encore plus riches. Les pauvres deviennent encore plus pauvres. C'est quand vous entendez ce qui se passe, les salaires de quelques personnes, c'est mirobolant. C'est même indécent, je crois. Les plus pauvres deviennent encore plus pauvres. Vous avez peut-être entendu ce qui se passe en Afghanistan, où avec le régime des talibans, eh bien... Des femmes en viennent à vendre leurs propres enfants pour pouvoir manger. Et vous voyez les enfants qui sont en train de pleurer parce que eux, ils comprennent ce qui se passe. Mais ça m'a même surpris de voir des femmes, peut-être c'était un sourire nerveux, mais elles souriaient. Les richesses matérielles peuvent nous aveugler si on n'y prend pas garde. Autre conséquence de mal utiliser ces richesses. Quand on se base sur elle, eh bien, on néglige la prière. On néglige la prière. Pourquoi prier si on prétend n'avoir besoin de rien? Comme l'église de Laodicée. Mais si on néglige de prier, et vraiment je vous encourage à saisir ces moments de prière, hein, en église, déjà bien sûr pour vous individuellement, mais aussi en église, si on néglige de prier, eh bien, on se coupe de la communication avec Dieu. On se coupe de celui qui nous ouvre les yeux. Alors on devient aveugle spirituellement. C'est le résultat d'un manque de prière. On devient aveugle sur soi et sur les autres. Vouloir se passer de Dieu, c'est la cause et la conséquence du péché. Rappelez-vous Adam et Ève. Adam et Ève ont voulu se passer de Dieu. Et après avoir désobéi à Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Sauf que eux, oui, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Sauf que là, l'église de Laodicée ne sait même pas qu'ils sont nus. Ne sait même pas qu'elle était pauvre, aveugle et nue. L'église. Adam et Ève, ils ont eu honte. suite à leur désobéissance. Ça amène donc l'aveuglement spirituel, une mauvaise utilisation des richesses. Et puis aussi, une mauvaise utilisation des richesses peuvent amener l'orgueil. Ah, tout ce que j'ai, c'est ma sueur de mon front que j'ai pu avoir tout ça. En prétendant qu'elles sont le résultat de nos seuls efforts. Alors que c'est le Seigneur qui nous donne tout. Je vais y revenir. Et on a cette mise en garde, hein. Il y a vraiment tout dans la parole de Dieu, tout ce dont on a besoin. Deutéronome 8, 17, Dieu qui exhortait son peuple. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Toujours nous rappeler que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et puis cette église, eh bien, non seulement elle se croyait riche matériellement, mais elle se croyait riche intellectuellement, spirituellement, intellectuellement. Elle avait goûté aux bénédictions de Dieu. Dieu donne à son église, elle y avait goûté. Et elle avait goûté aux dons du donateur. Sauf qu'elle avait gardé le don, mais elle voulait plus du donateur. Elle voulait plus de Dieu. Et j'ai pensé à quelqu'un que peut-être vous connaissez tous, je pense, hein, Elvis Presley. Elvis Presley, il avait grandi dans une église où on chantait beaucoup de gospel. Il en a entendu des chants chrétiens, des chants religieux. Il avait même appris des chants chrétiens dans sa jeunesse. Il avait des dons musicaux. Mais il a utilisé ses dons musicaux pour devenir une star du rock'n'roll, pour devenir une idole au sens propre du terme. Il plaisait beaucoup aux femmes. Il a choqué plus d'un, même dans les églises, bien sûr. Hein. Et résultat, eh bien, il est mort jeune. Il est mort drogué d'une crise cardiaque. Alors une église, elle est tiède lorsqu'elle a une morale toute humaine. Une morale qu'on se fabrique soi-même. C'est moi qui juge de ce qui est bien et ce qui est mal. On se passe de la justice de Dieu. On se croit juste à ses propres yeux. On prétend tout connaître. Plutôt que de se fier à la justice infaillible de Dieu dont on devrait être toujours dépendant. Dieu qui est le véritable juge. La justice humaine, oui, elle est parfois faillible. La justice divine, elle est infaillible. Dieu est le juge suprême qui ne se trompe jamais. On se fait sa propre morale, sa propre justice, et c'est parfois ce qu'on constate. On constate aussi à l'extérieur de l'Église. Et c'est pas étonnant, hein, dans une société qui veut de plus en plus se passer de ce qu'on nomme Dieu, et du Dieu véritable. Alors le Seigneur, il aurait préféré la voir nettement froide, cette Église de Laodicée. Par un désaccord clair, le Seigneur aurait préféré un désaccord clair avec lui. Seigneur, pourquoi tu permets telle ou telle œuvre, telle ou telle épreuve dans la vie de l'Église? Est-ce que tu es vraiment juste? Est-ce que tu es seulement au courant de ce que nous traversons? Est-ce que vraiment tu nous aimes? Et poussé à l'extrême, le froid devient glacial. Mais là, ça concerne plutôt les non-chrétiens. Ça ne concerne plus les chrétiens quand le froid devient glacial. Ça concerne plutôt les non-croyants, les athées qui sont convaincus. Non, moi je crois qu'en moi-même, Dieu a vu tout ce qui se passe dans les églises, certains disent que c'est pas pour eux. Et puis les athées, vous avez peut-être entendu cette question, si Dieu existe, pourquoi permet-il tant de malheurs? C'est vraiment la question qui revient, hein, souvent. Pourquoi tant de malheurs dans le monde? Ces personnes qui sont glaciales, eh bien ce sont de telles personnes qui peuvent devenir bouillantes pour le Seigneur quand elles se convertissent. Ce sont des athées convaincus qui, lorsqu'elles ont compris, elles ont accepté le Seigneur, elles peuvent devenir des chrétiens bouillants pour le Seigneur. Le Seigneur aurait préféré la voir nettement froide, cette église, ou bien nettement bouillante pour lui, zélée pour lui, cette église. Cœur vaillant pour le Seigneur, brûlant d'un amour pour lui. On s'éloigne du péché, on fait tout pour lui plaire, on veut annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, à tous ceux qui nous entourent. Mais dans la réalité, cette église, elle n'a d'abord rien d'une hostilité froide envers le Seigneur et n'a non plus aucun zèle bouillant pour lui. Elle est tiède. Elle est composée de chrétiens de nom, apathiques. On peut dire chrétiens du dimanche, hein, qui vivent leur foi le dimanche et le restant de la semaine. Bon, c'est comme tout le monde. Elle vit dans l'indifférence générale. Un tel souffre, et alors? Les gens se meurent sans l'évangile, et alors? Et on a affaire à une église prétendant tout connaître, tout posséder, autosuffisante, avec des richesses bien apparentes, orgueilleuses, indifférentes aux souffrances des autres. Mais elle n'avait plus le principal. Cette église qui se croyait tout posséder, il lui manquait le principal. Elle n'avait plus Christ. Elle n'avait plus Christ. Christ qu'elle a d'ailleurs laissé à la porte de son église, à sa porte, puisque c'est lui qui frappe à la porte de sa maison, sa maison. Résultat, eh bien, l'église, elle a un contre-témoignage devant des non-chrétiens qui se disent, ben, puisque c'est ça l'église, c'est pas pour moi. Ça sera sans moi. Et l'église, eh bien, le Seigneur va la reprendre. Parce que c'est pas seulement pour elle qu'il va la reprendre, mais aussi pour son témoignage envers les non-chrétiens. Le Seigneur ne va pas la laisser dans cet état. Pourquoi ? Parce qu'il en est le propriétaire. Et il le restera pour toujours. Le Seigneur ne va pas la laisser comme ça. Son église lui appartient parce que c'est lui qui l'a créée le jour de la Pentecôte. On a fêté Pentecôte il n'y a pas longtemps. Pentecôte, c'est la naissance de l'église. Parce que le Saint-Esprit a été répandu sur les premiers disciples. Il l'a acquise par son propre sang. Elle lui appartient. Il l'a acquise pour lui, pour que nous soyons son épouse et lui notre époux. Alors il ne va pas laisser son église comme ça. Et là encore, voyons-y, non pas un jugement, mais un effet de sa grâce. Voyons justement maintenant comment une église tiède peut redevenir bouillante pour le Seigneur. Et là, eh bien, comme dans les autres lettres, le Seigneur se présente encore d'une autre manière par rapport aux autres lettres. C'est une manière qui est appropriée aux besoins de cette église. Il se présente d'une façon qui répond spécifiquement aux besoins de cette église. Il se dit, verset 14, le Seigneur, il se décrit, « L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Et s'il se décrit comme ça, pourquoi est-ce que c'est adapté à cette église? C'est ce qu'on va voir. D'abord, le mot « Amen » veut dire « ainsi soit-il ». Et vous avez remarqué, il apparaît dans la dernière des sept lettres aux églises. « Amen », comme pour conclure le tableau des églises. Et pour bien montrer l'autorité et la vérité de la parole de Dieu. Ces sept lettres qui sont la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui s'accomplira. Et quand nous disons « Amen » dans nos prières, c'est pas un mot magique, nous reconnaissons que Jésus est l'Amen. Il est l'Amen et il est le témoin fidèle et véritable. Témoin de qui ? Témoin de son Père qui nous a fait connaître. Il nous a fait connaître Dieu, il nous a fait connaître son amour. Il est venu pour ça, pour que nous connaissions Dieu. Il le connaît, il est venu de lui, il est lui, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il parle de sa part, Jésus est la parole de Dieu. Alors on peut bâtir notre vie sur lui. Encore en 2 Corinthiens 1, verset 20, nous lisons « Toutes les promesses de Dieu sont en lui. » toutes les promesses de Dieu sont « oui » en lui, en Jésus donc. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu « l'Amen » pour sa gloire. Par lui, c'est par Jésus que nous pouvons dire « Amen ». Toutes ces promesses sont vraies. Or, l'église infidèle de Laodicée ne devait pas souvent dire « Amen ». Ou le disait peut-être, mais sans conviction. Parce qu'elle avait laissé l'Amen à la porte. Elle avait laissé Jésus à la porte. Et une question se pose. Elle a rejeté Jésus, n'est-ce pas? Puisqu'elle a rejeté Jésus, Jésus va-t-il la rejeter? C'est pas ce qui est écrit ici. Lui n'est pas tiède face à l'indifférence. Il n'est pas tiède et certainement pas indifférent face à l'indifférence. Et quel encouragement pour nous. Il n'est pas tiède. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un mot qui nous gêne. Il va la vomir. Il va la vomir de sa bouche, verset 16. Et vous avez remarqué le détail? On vomit forcément par la bouche, hein. Il n'y a pas d'autre endroit. Il va la vomir de sa bouche. Eh bien, comment est-ce qu'il va la vomir? C'est bien. C'est pas en la rejetant. C'est pas en rejetant l'église. De sa bouche, il va lui dire une parole qui va la réveiller, qui va la déranger, certainement. C'est par sa parole qu'il va reprendre l'église de Laodicée en lui exprimant le dégoût, il n'y a pas d'autre mot, le dégoût qu'elle lui inspire. Et il y avait de quoi avoir du dégoût, effectivement. Parce que là, qu'est-ce qu'il était en train de se passer? Certaines églises étaient en train de reproduire la même vieille désobéissance qui était celle d'Israël. L'église était en train de reproduire la désobéissance d'Israël. Rien de nouveau. Les chefs religieux juifs avaient rejeté Jésus, le Fils de Dieu, propriétaire du peuple juif. Ce peuple qu'il avait voulu se former pour lui. Et voilà que ça recommence chez les chrétiens, qui mettent à la porte leur propre Seigneur. Les chrétiens, toujours le peuple de Dieu, mais cette fois élargi à toutes les nations, pas seulement les juifs. Et c'est grave, parce que Dieu est allé jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son propre Fils, qui a été sacrifié à la croix par amour pour nous, pour que nos péchés puissent être pardonnés, puisque pour que nous puissions être en communion avec lui, H24, minute après minute. Et lorsque nous croyons en Jésus et que nous nous repentons, ce que Dieu invite tout homme, toute femme à faire, tout enfant aussi, lorsque nous croyons en Jésus et nous repentons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons dans la famille de Dieu, la famille de Dieu. Littéralement, nous devenons ses enfants, parce que nous avons cru et accepté, nous avons cru en son Fils. Lorsque nous acceptons le Fils de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Et Dieu devient notre Père céleste. Est-ce que tu fais partie de sa famille? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Laodicée, le mot Laodicée veut dire justice, droit du peuple. C'est intéressant. En tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous avons obtenu des droits, et c'est magnifique. Nous avons obtenu des droits, les mêmes privilèges qu'un enfant a auprès de son père. À savoir, eh bien, il y a l'héritage que Dieu nous réserve dans les cieux. Et quel héritage! Et plus que cela, nous avons obtenu les mêmes droits que Jésus lui-même, qu'il partage avec nous. Jésus est devenu notre frère aîné. Et son héritage, à lui, il nous en fera partager. Voilà les droits qu'il nous a acquis par son sacrifice. Éphésiens 2, verset 19, fin du verset 19, nous dit « Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui, vous faites partie de sa famille. » Mais c'est justement parce que nous qui croyons en Jésus, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu que nous avons un autre droit. Est-ce que vous voulez savoir lequel? Voulez-vous connaître vos droits? Vous savez cette question. Un droit qui est inhérent à toute famille. Est-ce que vous voulez connaître vos droits en tant qu'enfant de Dieu? Eh bien, nous avons le droit d'être corrigés par le chef de famille. Par Dieu lui-même. Et si vous êtes parent, vous savez ce que ça veut dire. Combien de fois vous êtes-vous senti poussé à réprimander votre enfant que vous chérissez pourtant, mais justement parce que vous l'aimez? Dieu nous aime et il peut être amené à nous châtier parce qu'il est notre Père céleste. Et je vais lire dans Hébreux 12, verset 6 et 7 et 8. Il est question de châtiment. Et le texte que Pascal a lu ce matin dans 1 Corinthiens, il y a bien une différence entre le châtiment et le jugement. Dieu nous châtie pour nous éviter le jugement. C'est pas qu'il nous châtie jamais. Et voilà ce que nous dit Hébreux 12, 6, 7 et 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous avez remarqué, il y a un mot qui revient là, et qui est même répété dans notre texte. C'est le mot « tous ». Dieu nous châtie tous. Il nous châtie pour notre bien, hein, Hébreux 12, 10. Il nous châtie tous, pourquoi? Parce qu'il nous aime tous. Verset 19, un peu plus clair. Dans notre texte, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Il nous aime tous dans l'Église. Il aime, bien sûr, les non-croyants aussi. Tous. Alors, ne nous étonnons pas lorsque nous nous sentons réprimandés par Dieu. Tout chrétien passe par là. Et c'est normal. C'est normal. Alors non, le Seigneur ne rejette pas son Église, même si elle lui a donné la nausée. Il rejette pas l'Église de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de sa famille. Le Très-Haut en a la nausée, écœuré, mais il n'a pas cessé de l'aimer pour autant. Parce qu'il est son Père. Il est notre Père. Et c'est bien pour ça qu'il reprend son Église, qu'il nous reprend parfois. Et comment le Seigneur... voyons là un effet de sa grâce. La grâce qui devrait nous conduire à la vraie repentance. Comment le Seigneur va-t-il vomir cette Église de sa bouche? Par une parole. Laquelle? Une parole étonnante. Étonnante. Il va lui donner non pas un ordre, il va lui donner un conseil. Ben oui, une Église qui prétend n'avoir besoin de rien ni de personne ne reçoit pas d'ordre. Alors le Seigneur va lui donner un conseil. Voilà le conseil. Achète-moi. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Fin de citation. Le Seigneur lui conseille d'acheter, on pourrait dire, ce qui n'a pas de prix. Premièrement, de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi? Il s'agit de sa parole. Sa parole, la parole de Dieu devrait être notre plus grande richesse parce qu'elle est éprouvée. Elle est fiable à 100%, tu peux y baser ta vie. Elle est bien plus précieuse que l'or. Et le psalmiste l'avait bien compris, je vais citer deux versets du psaume 119 sur la parole de Dieu. Psaume 119, 72 et 140. Le psalmiste disait « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et verset 140 « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Voilà, quelle devrait être notre plus grande richesse, la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter l'or. Et ensuite, il est question de vêtements. Pas étonnant, Laodicée a dû comprendre ce que ça voulait dire, parce que la ville de Laodicée était un grand centre de confection. On y confectionnait beaucoup de vêtements, donc un riche centre commercial. Eh bien, le Seigneur conseille à l'Église de lui acheter des vêtements blancs pour que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Vêtements blancs, ça fait tout de suite penser au salut. Le vêtement du salut, cette robe blanche qui symbolise nos péchés pardonnés. Vous savez, avant qu'on accepte Christ, notre vie est représentée par un vêtement sale. Et Jésus fait un échange. Si tu l'as pas encore fait, Jésus veut faire un échange avec toi. Donne-lui ton vêtement sale, il te donnera son vêtement blanc. Qui symbolise le pardon de nos péchés. Et que toute personne qui croit en Jésus reçoit. Et vous l'avez compris, la valeur de cette robe, elle est inestimable. Ou plutôt à la valeur du sang de Jésus. Et enfin, le Seigneur lui conseille d'acheter quoi? Un collier. Un collier pour les yeux, pour qu'elle voie. Et là encore, l'Église savait très bien ce que c'était qu'un collier, parce que Laodicée était aussi un centre médical. Pour que ses yeux s'ouvrent, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'elle ait ses yeux ouverts, le Seigneur fait une invitation à son Église. Pour que ses yeux s'ouvrent, il faut qu'elle réponde à l'invitation du Seigneur. Il lui faut répondre à l'invitation du Seigneur et réaliser qu'elle ne peut pas s'acheter ce que le Seigneur lui propose d'acheter. Et qui n'a pas de prix, ou plutôt qui a le prix du sang versé par lui pour acquérir cette Église. Elle qui pourtant se croit si riche. Alors, on comprend pourquoi Jésus se présente aussi comme le commencement de la création de Dieu. Verset 14. Ça tombe pas là comme un cheveu sur la soupe. Jésus est le commencement de la création de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé. Jésus n'a pas été créé. Il est le Fils de Dieu éternel. Mais c'est lui qui a tout créé, le commencement de la création. Jésus a tout créé, il est le Créateur. Et puisque c'est lui qui a tout créé, eh bien tout lui appartient déjà. Y compris les richesses que cette Église croit posséder. Croit sienne, ces richesses, elles appartiennent au Seigneur, parce que c'est lui qui les a créées. L'apôtre Paul avait écrit à l'église de Colosse, justement, et à celle de Laodicée, eh bien, Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il s'agit là du Christ, du Seigneur. Alors oui, lorsque cette église se rendra compte qu'elle ne peut rien acheter du Seigneur, à qui tout appartient. Lorsqu'elle se rendra compte que sa monnaie d'échange ne vaut rien, eh bien là, elle se rendra compte qu'elle a besoin du Seigneur, ce qu'elle nie. Le Seigneur qui donne gratuitement, par pure grâce, sans rien payer, ce qu'elle ne peut pas s'acheter, ce qu'elle ne peut pas payer. Et c'est là, vous avez remarqué, c'est là que le Seigneur frappe à la porte. Pas à la porte de l'église, du bâtiment. Il frappe à la porte de chaque membre de l'église, à la porte de nos cœurs, à chacun. Et vous avez remarqué, il frappe à la porte des cœurs individuellement, poliment. C'est poli de frapper à la porte avant d'entrer, alors qu'il est chez lui, hein. Poliment, sans forcer, pour entrer, en nous rappelant le prix le plus élevé qu'il a payé pour nous à la croix, par amour pour nous. Encore un effet de sa grâce, il frappe à la porte, il appelle. Il appelle ce qui est sien, il appelle à lui ce qui lui appartient déjà. Alors, il frappe, c'est bien, il faut non seulement l'entendre, mais il faut aussi répondre, lui obéir, en ouvrant notre cœur, même si nous sommes déjà chrétiens. Et qu'est-ce qui se passera si nous l'accueillons? Il nous accueillera. Il nous accueillera pour un dîner en tête à tête avec lui. Est-ce que vous désirez ce tête à tête? Parce qu'il a des choses à nous dire à chacun. Il veut causer avec toi, avec moi. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini justement parce qu'il veut cette relation. Si nous l'accueillons, c'est lui qui nous accueillera à son tour pour souper avec nous. Et c'est un avant-goût du festin messianique qui nous attend. Et puis là, le texte se termine en beauté. Il y a une autre promesse. Une autre promesse qui dépasse toutes les précédentes à celui qui lui ouvrira. D'ordinaire, un roi ne partage pas son trône, hein. Un roi humain, il partage pas. Mais ici, le Seigneur offre à des chrétiens tièdes qui sont devenus bouillants rien de moins que de s'asseoir avec lui sur son trône pour régner avec lui. Pour régner avec lui. Ce règne qui aura lieu pendant le millénium, quand il reviendra. Pour régner avec lui. Il fait cette promesse à des chrétiens qui lui ont donné envie de vomir. Mais qui se sont repentis, qui ont ouvert leur cœur. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors oui, cette lettre, elle est là pour nous dire que le Seigneur ne rejette pas son Église. Même si elle l'a laissée dehors. Parce qu'elle reste sa propriété. Plus que cela, plus que sa propriété, l'Église reste la famille de Dieu. C'est lui-même qui l'a créée. Il ne la rejette pas, mais il peut être amené à la reprendre, à la châtier. C'est pas un jugement, mais c'est l'effet de sa grâce. C'est une exhortation pour nous tous, puisque ces sept lettres sont là pour son Église. On les a parcourues les sept. C'est une exhortation pour nous à veiller quand tout semble aller bien. Même lorsqu'on n'a pas de problème, c'est une exhortation à rester éveillé. Même si tu es à l'aise financièrement, même si tout va bien, c'est une exhortation à veiller. Parce que nous aurons toujours besoin d'être avec le Seigneur. Et c'est ce qui devrait faire notre joie. C'est lui qui fait notre joie. Alors, peut-être c'est le cas parmi vous, si votre propre famille vous a fermé la porte, ne désespérez pas, peut-être des non-chrétiens dans votre famille, gardez le contact, accueillez-les. Et peut-être c'est toi qui es dégoûté des autres, du monde. Il y a de quoi, hein, quand on voit ce qui se passe, comment la famille est méprisée, des choses qui nous révoltent. Peut-être tu es dégoûté de toi-même. Le Seigneur, il a eu la nausée. Il sait ce que ça veut dire. Eh bien, il te comprend. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Que tu sois chrétien ou pas. Laisse-le entrer. Parle-lui dans la prière. Seul à seul avec lui. En te persuadant, parce que c'est la vérité, qu'il est là. Qu'il est présent. Et lui t'accueillera pour trouver ou retrouver la communion avec lui. Amen, je vais prier. Seigneur, merci parce que, encore une fois, on lit dans ces lettres comment tu t'occupes de ton Église, Seigneur, même celle qui t'a mise à la porte, comment tu es patient avec nous, comment tu nous aimes, Seigneur. Eh bien, donne-nous, comment ne pas t'aimer en retour, Seigneur. Et Seigneur, que vraiment d'abord, pardon quand nous t'avons attristé, Seigneur. Et quand tu as eu la nausée. Et Seigneur, nous te demandons de nous réveiller, Seigneur, de ne pas nous installer dans un confort trompeur, Seigneur, mais qu'on soit vraiment assis avec toi dans les lieux célestes, Seigneur, qu'on te voit par la foi, qu'on te voit agir dans nos vies, et Seigneur, qu'on entende ta voix, qu'on te suive là où tu es, parce que tu veux être avec nous à chaque instant, chaque heure de notre vie, Seigneur. Nous te remercions pour un tel amour, pour une telle grâce. Seigneur, l'Église est et restera ta propriété, ta famille, Seigneur, et tu t'occupes de ta famille, tu n'es pas indifférent. Garde-nous d'être indifférents, Seigneur. Et si c'est le cas, Seigneur, eh bien, rends-nous bouillants pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as acquis au prix de ton sang pour nous. Et parce que tu nous amèneras jusqu'au bout avec toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.